rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut de Tuile au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre beau sud-ouest. Bonjour Monseigneur Echen.
Bonjour à vous.
Vous êtes évêque de Pamiers, Couseron et Mirepoix en Ariège. Avec vous, pendant ce mois de février, nous avons parlé de vos nouvelles orientations diocésaines, rassemblées dans un livret que je recommande chaleureusement à nos auditeurs. J'espère que vous l'avez tous lu depuis le début de ce mois. Écosystème pour vivre en chrétien en Ariège. Alors, la septième orientation, septième sur neuf, parle de gratuité. Tout nous est donné par grâce, donc combien plus nous-mêmes devons-nous refléter dans notre mode de vie cette gratuité? Là encore, vous nous invitez à transformer le monde, un monde donc que vous considérez aujourd'hui trop marchand.
Oui, certainement. Souvent, il m'arrive de citer cette phrase de Peggy qui m'a beaucoup marqué, qui doit se trouver dans un grand poème qui s'intitule « Ève ». C'est vrai que les textes de Peggy sont souvent très longs, parce qu'on est aussi dans des logiques de
répétition.
Un
caractère répétitif, tout à fait. Oui.
Et donc, il met en scène le Christ parlant à sa mère, et le Christ disant « Tout s'achète et se livre et s'emporte, rien ne se donne plus, et moi j'ai tout donné. » Tout s'achète et se livre et s'emporte, il y a tout ce rythme. Rien ne se donne plus et moi j'ai tout donné. Donc il y a vraiment cette invitation à être dans une logique du don, qui est un peu en contradiction avec parfois l'esprit dominant dans lequel tout se monnaie finalement. Le service gratuit, c'est parfois, il nous arrive d'en parler en famille, quand dans certaines organisations familiales, quand les enfants prennent leur tour de vaisselle, ils sont indemnisés. Si même en famille, il faut que les services soient payants, ça pose quand même un petit problème. Donc il y a cette idée, il y a la grande famille humaine. À un certain moment, on a besoin aussi, parce que l'argent, c'est une sorte de médium, donc on a besoin aussi que l'ouvrier mérite son salaire et qu'il soit justement rémunéré, mais il faut aussi être capable de se rendre disponible pour aider gratuitement. Personnellement, j'ai été marqué, comme beaucoup de nos contemporains et beaucoup de chrétiens, par la pédagogie scout et l'esprit du service, la bonne action quotidienne. Une bonne action qui est rémunérée, c'est plus tellement une bonne action. Donc il y a cette dimension de gratuité. Et ce qui est intéressant, c'est que chez nos contemporains, et sur des territoires comme les nôtres, c'est assez marquant, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, au moins dans leur référence explicite, mais qui essaient d'inventer un monde qui soit en quelque sorte non marchand, qui soit dans une logique d'échange, où même sur des itinéraires comme le chemin de Saint-Jacques, il y a une manière pour les pèlerins, dans certains lieux d'accueil, de donner ce qu'ils souhaitent, qu'ils semblent juste. S'ils ne peuvent rien donner, bon, à un certain moment, c'est l'idée du donativo.
C'est ça.
Ils ne donnent rien.
Oui.
Alors il y a aussi en Ariège des lieux, des gratiferia, c'est-à-dire des lieux où finalement les choses sont données ou échangées, mais il y a peu de négoce au sens le plus fort du terme.
Mais vous nous poussez à ouvrir nos maisons, aller un cran plus loin, c'est-à-dire pas seulement ceux qui accueillent les pèlerins, mais plus largement. Ouvrez vos maisons, dites-vous.
Oui, si c'est possible.
Si c'est possible.
Alors il y a de belles initiatives, y compris associatives, chrétiennes, qui font que, par exemple, pour accueillir des personnes qui seraient dans la rue, il y a une manière pour des familles de se mettre ensemble et à tour de rôle d'accueillir pendant une semaine ou deux. Donc cette logique, oui, d'accueil, d'hospitalité. L'hospitalité, c'est un concept assez fort dans la spiritualité judéo-chrétienne. On en parle beaucoup ces temps-ci, bien sûr, avec la question des migrants. J'aime bien quand le pape relit, il n'est pas le seul d'ailleurs, Monseigneur Michel Aupetit le faisait aussi à nouveau, l'hospitalité faite aux migrants, aux sans-papiers, aux réfugiés, à l'hospitalité aussi faite à la vie, à l'enfant parfois non désiré, ou à la personne en fin de vie qui commence à être un peu encombrante parce qu'elle est aussi dans des troubles cognitifs, mais qui a droit d'être respectée, d'être accompagnée jusqu'au terme de son existence, sans que forcément on mette fin positivement à son chemin.
Et à ne surtout pas les opposer ni les prioriser l'un par rapport à l'autre.
Voilà.
Continuons à parcourir le livret où dans la huitième orientation, vous nous poussez justement à l'engagement politique, engagement dans l'éducation et dans le politique. Vous avez un peu le sentiment que les chrétiens ont déserté ces lieux ?
Oui, parce que la politique, pas seulement pour les chrétiens, a mauvaise presse, alors que la politique, c'est un des lieux d'exercice très fort de la charité, c'est le service du bien commun. Donc, quand on est dans cette optique-là, on sait bien, en étant attentif à l'enseignement social de l'Église, que dans les sources de l'injustice, il y a aussi des structures qu'on appelle des structures de péché dans l'enseignement social de l'Église. Donc, des choses qui sont structurellement injustes et qu'il faut contribuer à modifier. Par exemple, si je prends un seul exemple, c'est pas dans l'histoire de l'humanité, finalement, c'est pas si ancien que cela, mais que tout homme, tout citoyen puisse avoir droit à la parole par le vote, eh bien c'est finalement tout cela est aussi induit par une vision de la dignité de chaque homme, du plus pauvre au plus doté, et ces structures-là, une modification de structure pour qu'elles soient plus démocratiques, pour que le point de vue de tous soit entendu, ça peut tout à fait s'ancrer dans l'Évangile. Ou le fait que les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres ne soient pas trop criantes ou ne soient pas démesurées, eh bien cette attention-là, ça nous vient de l'Évangile. Le fait qu'il n'y ait pas, malheureusement il y a encore des lieux dans le monde, des hommes qui ne soient pas considérés vraiment comme des hommes parce qu'ils sont vendus comme des esclaves, eh bien c'est l'Évangile qui nous aide à nous engager dans ce monde-là pour opérer ce type de transformation aussi.
Et l'appel concerne chacun, et chacun de nous est appelé, effectivement, oui. Et il ne faut pas se cacher dans notre petit doigt et se dire que c'est les autres qui sont appelés à s'engager. La neuvième et dernière orientation parle de communauté, celle que forment les prêtres, celle que forment les fidèles, des fraternités locales d'un côté, des fraternités itinérantes de l'autre. Ces deux concepts qui sont assez révolutionnaires, au fond, Monseigneur Eschen, vous êtes un révolutionnaire.
Je ne pense pas, non, enfin c'est surtout le Christ qui est révolutionnaire, après on essaie d'être ses témoins, mais non, ce sont des choses qui finalement qui sont assez traditionnelles dans l'Église, mais qu'on redécouvre, cette idée que nous, notre rêve en Ariège, mais dans bien d'autres, pour des frères évêques et des frères chrétiens d'autres départements, c'est que dans chaque village, il puisse y avoir une petite fraternité chrétienne qui témoigne du Christ. Et ces fraternités chrétiennes ont besoin d'être suscité parfois. Parfois, elles n'existent pas. Il y a des chrétiens individuels, mais qui ne se sont pas mis ensemble. Une fois qu'elles ont été suscitées, elles ont besoin d'être formées, d'être
nourries,
accompagnées, d'être réconfortées, parce que ce n'est pas si simple d'être témoin du Christ. Et pour que ces petites communautés locales de gens qui parfois sont peu mobiles, peut-être en raison de l'âge, soient épaulées, il faut qu'il y ait des fraternités itinérantes, avec des ministres ordonnés, qui vont aussi apporter la grâce des sacrements, de l'enseignement de la parole, et qui vont remettre en communion, quand il y a parfois dans des fraternités chrétiennes des divisions, ça peut arriver dans des familles aussi.
Mais il y a déjà là un nouveau prêtre qui a ce caractère d'itinérance.
Oui. Donc on a un prêtre dans notre diocèse, le père Antoine, là, qui symboliquement, au nom de tous, porte cette responsabilité de l'itinérance avec d'autres, avec des équipes de gens qui le rejoignent aussi parfois venant de l'agglomération toulousaine. Ils disent, tiens, cette démarche nous intéresse, on a envie de la vivre. Et donc on vient la vivre avec le père Antoine et avec quelques autres.
Voilà. Et maintenant, que va-t-il se passer? Vous prenez votre crosse et vous allez remonter chaque vallée de l'Ariège avec votre livret?
Alors oui, on va aller en quelque sorte prêcher la bonne parole et se dire, bon, maintenant on a mis par écrit sur un texte de référence ce qu'on voudrait essayer de vivre, où en sommes-nous? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le partagez? Et comment concrètement on le met en œuvre? Modestement, mais j'aime bien cette expression, parfois on rêve de grandes choses, de grands rassemblements, de grands synodes. Cette expression anglaise qui dit « small is beautiful », c'est ce qui est petit qui est beau. Nous, l'Ariège, c'est un petit territoire avec des petites communautés, mais ce qui serait beau, c'est que s'il n'y a que 3, 4, 5 personnes, mais qui vivent de l'Évangile de manière assez forte et rayonnante. C'est ça notre rêve. C'est pas, ce ne sont pas des rêves de grandeur, ce sont des rêves assez pauvres, mais pauvres comme l'Évangile, pauvres comme des espérances franciscaines ou dominicaines ou juste chrétiennes.
Très bien. Merci, un immense merci, Monseigneur Eschen,
Merci à
de
vous.
nous avoir accompagnés aujourd'hui pendant tout ce mois de février. J'espère que nous avons donné de nombreuses idées à nos auditeurs, que nous les aurons amenés à s'interroger, tant il est vrai que le chrétien ne doit jamais rester assis dans son canapé. Cette phrase du pape François ne s'adresse pas qu'aux ados.
Tout à
Voilà.
fait.
Merci, Monseigneur Eschen. Je vous dis à très bientôt et, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques.